Bonsoir. Bonsoir.
Ouais,
à 10h du matin, c'est bonsoir.
C'est bonsoir.
Vous êtes durement en forme.
Mais oui, vous-même.
Ça va,
et toi?
C'est bien.
C'est bien?
Ouais.
Tu veux un petit café?
Ouais, sinon on fait un auto-da-fé pour que je me réchauffe.
Ok.
Ça fait très longtemps que j'avais pas employé ce mot, auto-da-fé.
Auto-da-fé.
Dernière fois, c'était avec mon grand-père. Mais... je ne veux pas que je le laisse, ça. Salut, Baxter.
Salut, Hillcock. Check.
Voilà, comment il va?
Bah, très bien, très bien.
Je vais parler d'auto-da-fé avec Aurore Pourny. C'est pas très grave.
Ah, ouais. Et alors
Non, c'est plus sur la proximité des éditions Gallimard qui sont à côté de vous. Je voulais
pas... des éditions, du moins la diffusion, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Un petit mot de...
Comment elle s'appelle? Bonjour,
bonjour
madame.
Bonjour, elle s'appelle Morgane.
Bonjour Morgane, bienvenue.
Merci.
Bienvenue chez vous.
Enchantée.
Vous êtes ici chez vous. Hein. J'espère que l'accueil s'est passé merveilleusement. Vous connaissiez la maison.
Je connais la maison.
Et nous connaissons nous-mêmes la maison Gallimard.
Voilà.
Après, auto-da-fé, là, nouveauté là, de mars, Jean-Baptiste Delamo, La Nuit Ravagée.
On n'est pas sur la nuit des longs couteaux, rassurez-moi, non.
Non, mais La Nuit Ravagée, ouais, c'est, ça a l'air, peut-être pas auto-da-fé, mais auto-da-fesque, peut-être.
Bon, tout va bien chez Gallimard?
Tout va très bien chez
D'accord.
Gallimard.
Bolloré a pas fait d'OPA?
Non.
Bon, vous savez quoi, pourvu que ça dure. La Nuit Ravagée de Jean-Baptiste Delamo, donc vous nous parlerez très bientôt.
Eh bien, peut-être, plutôt Aurore, c'est un des auteurs qu'affectionne Aurore particulièrement.
Ça veut dire que vous aimez pas, en fait.
Oh là là, tout de suite,
je vous connais.
Oh non, mais tout de suite.
Quand vous déléguez, je vous connais.
Oh là là, le journalisme français, quoi.
MDM, tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Et cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres. En italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc, on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Aurore Pourny, je suis arrivée vierge. Je ne sais pas comment je repartirai.
Scorpion. Vous repartirez scorpion.
Je suis scorpion.
Ah bon?
Comment vous le savez? Vous l'avez senti?
Ouais, je l'ai senti.
Un petit côté astrologue, ouais, Françoise Hardy.
Ouais, j'adore. Ouais.
Oui, non, je suis arrivé vierge de toute connaissance sur ce dont on va causer, et en l'occurrence, c'est de la BD.
Ouais.
Donc, vous avez tout encore à m'expliquer et me
Exactement.
Raconter.
Exactement. Deux superbes BD, une purement fiction, et l'autre, c'est du journalisme. Ah!
C'est un métier que j'apprends à découvrir tous les jours, figurez-vous.
Tous les jours. Oui. Ah bon, on va commencer par ça alors. Il s'agit de la bande dessinée Globetrotteuse, en sous-titre Le Tour du Monde de Nelly Bly et Elisabeth Bisland, paru aux éditions d'Argo, le scénario Vologe et au dessin Rochelot. Alors, Nelly Bly, c'est une pionnière dans le journalisme d'infiltration.
D'où qu'elle vient?
C'est une américaine, ouais. New-yorkaise. Là, on est dans les années 1890.
Ah.
Elle était spécialiste du reportage clandestin.
Des insides, ouais. Des immersions.
Oui, alors elle a travaillé sur la vie à l'usine, la vie ouvrière à l'usine. Elle a subi évidemment des femmes. Elle s'est fait enfermer 10 jours dans un asile et a sorti un texte sur la vie dans l'asile.
Et, voilà. Ah oui, on est vraiment sur... On est la pionnière, celle qui a montré la voie.
Une des pionnières. Après son reportage sur l'asile, il y a eu une réforme du système de santé. C'est quand même assez important.
Tremble, Élise Lucet.
À ce moment-là, donc fin 19e, elle est assez connue. Du coup, le journal, donc c'est le journal, le New York World, qu'on ne connaît plus maintenant, mais c'était le journal de Joseph Pulitzer, qui décide d'accepter son idée de l'envoyer faire le tour du monde en moins de 80 jours pour battre le fameux Phileas Fogg, le roman de Jules Verne, qui avait été écrit en 1872. Donc on est 12 ans après, Nelly Bly se dit « je vais essayer de battre ce record ».
Jules Verne, fake news, je vais montrer quoi.
Que je peux le faire en moins de temps que ça. L'aventure est ultra médiatisée à l'époque, tout le monde suit ça sur les journaux, tant et si bien qu'un journal concurrent décide d'envoyer donc Elisabeth Bisland, qui à l'époque était poétesse et critique littéraire, faire le tour du monde en concurrence de Nelly Bly. Ah,
ça se tirait la bourre déjà entre journaux.
Ça se tirait la bourre, mais dans l'autre sens. Donc il y en a une qui part d'est en ouest et l'autre qui part d'ouest en est. Ça a défrayé la chronique, c'était quelque chose d'hyper connu. Le texte existe, hein, Le Tour du Monde en 72 jours de Nelly Bly, c'est son reportage, c'est une des
premières. J'allais regarder ça.
Ben oui, c'est disponible chez Point. Donc ce qui est passionnant, c'est cette bataille entre journaux. Le fait que ce soit deux femmes aussi, ça a permis à toute une génération de femmes d'être plus audacieuses et plus émancipées. Le droit de vote aux États-Unis pour les femmes, c'est 1900, c'est les années 20.
Ouais.
Donc on est 30 ans plus. La génération suivante, c'est inspirée de ces deux destins de femmes qui sont parties. Évidemment, il n'y avait pas de tourisme à l'époque. Ouais. Donc elles ont vraiment découvert le fameux tour du monde.
Ouais. Mais est-ce qu'elles ont, alors je ne vais pas spoiler, mais est-ce qu'elles ont fini par se croiser?
Mais ça, on ne va pas le.
On va pas lire. D'accord.
Non, alors en fait, elles ne se sont jamais rencontrées. Jamais.
Ok.
Ni après, ni pendant. Ça, je peux le dire, elles ont réussi, puisque le livre existe, Le Tour du Monde, en 72 jours. Donc, elle voulait le faire en 75. Nelly Bly l'a fait en 72 jours. Et Elisabeth Bisland, qu'on ne connaît plus maintenant, l'a fait en 76 jours. Elle est arrivée juste quelques jours après. Et donc, évidemment, cette histoire, portée en bande dessinée par ce duo-là, les dessins sont hyper burlesques, c'est pétillant, c'est drôle, c'est hyper dynamique, ça donne une énergie folle. Et bon, évidemment, ça donne envie d'être soi-même, évidemment, plus déterminé et audacieux que jamais. On voyage.
C'est coloré, c'est un petit peu flashy.
Ben oui, c'est très, très flashy, assez drôle. Les personnages sont très expressifs. Voilà.
Globetrotteuse, Le Tour du Monde de Nelly Bly et Elisabeth Bisland, c'est chez Dargo. Autre bande dessinée, celle de Jérémy Moreau qui s'appelle, j'arrive pas à lire.
Alit. Alors ça, c'est génial.
Avec un Y. Aussi.
Alors l'Alit, c'est une espèce de crapaud. On va en reparler. Alors Jérémy Moreau, c'est un jeune prodige de la bande dessinée qui dessine depuis l'âge de 8 ans. Et là, alors, je sais pas quel âge, mais il est vraiment tout jeune. Il a fait précédemment le titre Pizli, où on suivait une famille un peu en perdition qui était sauvée par une Amérindienne et finissait par partir en Alaska. Et Pizli, c'est cette nouvelle race d'ours. Du fait du réchauffement climatique, l'ours polaire et le grizzly se rencontrent. Alors qu'avant, c'était pas possible. Évidemment, une nouvelle espèce est en train de naître. C'est l'accouplement de l'ours polaire et du grizzly qui donne les Pizli. Jérémy Moreau est un grand lecteur d'Escola et de Nastassia Martin. Il adore l'anthropologie et il s'interroge toujours sur notre rapport au sauvage, tout en luttant contre l'éco-anxiété. Il est question d'écologie, mais là, pour le coup, on se passe du côté du sauvage et pas de l'humain. C'est toujours aussi psychédélique, c'est toujours aussi fluo, c'est hyper flashy aussi. C'est de la quadrichromie, mais hyper fluo. Et on suit l'histoire d'un crapaud, donc de l'espèce Alit, qui a cette particularité, c'est le mâle qui porte les œufs. Donc la femelle pond ses œufs et c'est le mâle qui les tient sur son dos. Et du coup, il va devoir aller lâcher les œufs dans un étang. Il y a évidemment une route qui sépare leur chemin. Le crapaud se fait écraser. Il arrive tant bien que mal dans l'étang où il arrive à lâcher ses œufs et il va y avoir un seul tétard survivant. Le fameux Alit dont on suit l'aventure. Donc on suit l'histoire.
Il va se retrouver tout seul.
Il est tout seul dans son étang. Il va réussir. Alors il va rencontrer un canard. Il va survivre au canard. Il survit à l'ours évidemment. Il va survivre.
On ne l'a pas vu.
Plein d'animaux. Non mais bah, évidemment il grandit.
Ouais.
Il va se faire ami avec un saumon qui va finir par être mangé. Il va finir par être ami en suivant avec un chevreau. Qui va finir par être mangé par un aigle, il va être ami avec l'aigle.
La
chaîne alimentaire, le hibou, jusqu'à arriver dans un arbre. On pense que dans la nature, évidemment, c'est la loi du plus fort. C'est pas le cas. Une fois que ce petit Alit arrive dans son arbre, il y a un moment de bascule qui va s'effectuer. Je vais pas trop en parler parce que on va être à la moitié de la BD et il va en suivant être question d'entraide interespèce. Ça va arriver, mais toute cette cosmogonie là est vraiment étonnante à lire. du point de vue du sauvage. Évidemment, l'être humain n'est pas loin parce qu'il est présent avec la route qui traverse la forêt. Et c'est quoi la vie ? C'est entrer en résistance. Et là, toutes ces espèces entrent en résistance contre cette route. Et l'arbre, moi, c'est l'un des personnages que je préfère parce qu'il a quand même une vision du monde un peu plus vaste qu'évidemment un crapaud. Donc, il essaye d'éviter, Jérémy Moreau, l'anthropomorphisme, même si évidemment, on n'a pas le choix parce qu'on s'adresse à des êtres humains. On apprend plein d'anecdotes sur ces animaux. Tous ces animaux-là existent, évidemment. Mais c'est une espèce de fable écologique. C'est coloré.
Jérémy Moreau, Alite.
Aux éditions 2024.
Aux éditions 2024.
En 2025, s'appelle maintenant les éditions 2042.
Pourquoi faire simple ? Alite, Jérémy Moreau, donc aux éditions 2024, mai 2042. Et Globetrotteuse, chez Dargaud, Globetrotteuse de voilà, j'ai Rochelot, des histoires de crapauds et des histoires de femmes.
Bah
ça
oui.
me rappelle...
Non, c'est dégueulasse. Ce n'est plus de notre époque.
C'est dégueulasse. Ce sera le dernier mot, le maître mot de cette rencontre.
Mais non.
Merci beaucoup, Aurore Pourny.
Avec plaisir.
Mais
à très bientôt.
Pluriel.